Nicolas Machiavel par Funk Brentano. Niccolò Machiavelli, en français Nicolas Machiavel, est généralement considéré comme le plus grand prosateur que l'Italie ait produit. Son œuvre se montre féconde dans les domaines les plus variés. Diplomatie et histoire, écrit politique où se formula pour la première fois l'idée de l'État moderne, philosophie et morale, traité d'art militaire, où le secrétaire de la chancellerie florentine développe des théories d'une clairvoyance telle qu'on y voit l'origine de nos conceptions actuelles. Et là ne s'est pas bornée sa prodigieuse activité intellectuelle. Dans la littérature dramatique, Machiavel s'est placé en un rang éminent. La comédie qu'il a intitulée La Mandragore est un chef-d'œuvre sans cesse relu et repris depuis l'année 1518 où la pièce fut représentée pour la première fois à Florence. La Fontaine en a tiré un de ses contes les plus piquants. En sa biographie du condottiere Castruccio Castracano, Machiavel apparaît comme le créateur de l'histoire romancée. L'Âne d'or est une amusante satire en vers où le poète s'est diverti à prétendre que les animaux valaient mieux que les hommes. Encore n'est-ce pas tant d'œuvres profondes ou brillantes que Machiavel a dû la plus grande part de sa renommée, mais au caractère de ses écrits politiques. La parole, disait Talleyrand, a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée, opinion que partageait Machiavel, mais en lui donnant une teinte de duplicité, perfidie, qui nous a valu de son nom toute une série de vocables devenus coutumiers dans la langue française. On dira c'est un Machiavel, d'un homme d'État sans scrupules, puis machiavélique, machiavéliquement, machiavélisé, machiavélisme, machiavéliste, et toujours avec l'aimable signification de mauvaise foi et de perfidie. Or, voici que de ce jugement défavorable, prononcé par la postérité, nombre de biographes du publiciste florentin font appel. Machiavel, écrit Pascal Villari, est l'homme le moins compris et le plus calomnié de l'histoire. Et le charmant Émile Guépard, en son âge d'or, Machiavel a été le plus honnête de tous les diplomates de son temps. Niccolò Machiavelli, nom qui en italien signifie dégraisseur, celui qui enlève les taches, naquit à Florence le 3 mai 1469. Son père était un moduste jurisconsulte employé dans l'administration florentine. Sa mère, Bartolome Nelli, cultivait la poésie et ce fut d'elle sans doute que l'écrivain tint ses dons littéraires. Le jeune Nicolas débuta en qualité de surnuméraire dans les bureaux de la municipalité florentine. Sur la fin du XVe siècle, on le voit secrétaire de la chancellerie, puis, en cumul, secrétaire de la commission dite « Conseil de la liberté et de la paix ». Ces doubles fonctions étaient complexes et d'une pratique délicate, les deux conseils s'occupant l'un de relations extérieures de la République florentine, l'autre du gouvernement des villes alors soumises à la suzeraineté de la seigneurie. De là, les nombreuses missions dont Machiavel sera successivement chargé. On en a compté 23 et sans doute plus d'une est-elle demeurée inconnue. En ce temps, les missions diplomatiques comptaient généralement chacune deux titulaires. L'un, le premier en importance, l'ambassadeur proprement dit, nommé l'orateur. Le second, dont le rôle était d'observer tout ce qu'il verrait dans les cours et les pays étrangers pour en faire son rapport au gouvernement florentin. C'est en qualité d'observateur que Machiavel fut le plus souvent employé. Il fut ainsi à trois reprises chargé de missions en France. Une première fois à la cour de Louis XII en 1500. Il a consigné ses observations en un mémoire intitulé « Portrait des choses de France ». Voici comment il y juge nos aïeux. Le français est doux et soumis. Il a le plus grand respect pour son roi. Sa nourriture lui coûte peu à cause de la grande quantité de vivres qu'il y a en France. D'ailleurs, il y a peu d'habitants qui n'aient une petite propriété foncière. Ils sont vêtus grossièrement d'étoffes peu chères. Ils ne portent jamais eux-mêmes ni ne laissent porter à leur femme aucune étoffe de soie. Quelques années plus tard, Machiavel sera chargé d'une mission en Allemagne, toujours en qualité d'observateur. Comme il l'avait fait après sa mission en France, notre diplomate consigna ses observations en un mémoire, « Portrait des choses d'Allemagne ». Les Allemands, écrit Machiavel, ont peu de goût pour le luxe. Il leur suffit d'avoir beaucoup de pain, beaucoup de viande et un bon poêle auprès duquel ils se blottissent quand il fait froid. Ils sont toujours prêts à la guerre. C'est une nation toujours prête à se battre. Machiavel admire leur organisation militaire et conseille à ses compatriotes de s'équiper militairement à l'allemande s'ils veulent garantir leur patrie d'invasion répétée. Mémoire écrit à la suite de la mission de l'année 1508. Machiavel était marié. il avait épousé une jeune Florentine, Marietta Corsini, qui lui avait apporté une dot honorable et lui sera toute sa vie une compagne douce, modeste, aimante et soumise. Elle fut une bonne mère, le type de la femme qui fait de son mari un homme heureux. Malheureusement, Machiavel était dépensier. Il aimait les compagnies joyeuses et dont de jolies femmes faisaient le principal élément de gaieté. Ajoutez que ses fonctions auprès de la seigneurie florentine ne lui valaient que des appointements modestes et qui étaient irrégulièrement payés. Aussi, son train de vie à Florence est-il loin de nous apparaître sous un jour brillant. Il quittait son foyer vulgaire pour les tavernes bruyantes, pour la place publique, où se discutaient les intérêts de l'État à la mode de l'Antiquité. La maison était petite, les chambres au nombre de trois, basses et très sales. Dans la chambre commune, ce qu'on appelait alors en France la salle, une grande cheminée où la ménagère faisait la cuisine. Dans la chambre à coucher, le dessous du lit servait de réceptacle à ce que nous confions de nos jours aux poubelles. On nettoyait le samedi. Du commencement à la fin de la semaine, les ordures s'entassaient dans les coins. Il y avait, il est vrai, la loggia, la fameuse loggia italienne. Ici, on se trouvait mieux. Ouverte sur la rue, écrit Oreste Ferrara. Pleine de soleil, elle faisait dans la maison tiède un agréable refuge. Mais en saison tiède seulement. L'hiver, le froid, l'été, la chaleur en chassaient les occupants. Quant à la table, Marietta la garnissait de la manière la plus frugale. La guerre des Florentins contre les Pisans, qu'ils voulaient soumettre à leur suzeraineté, vint mettre une vigoureuse diversion aux occupations du fonctionnaire diplomate. 1505. Machiavel fut nommé secrétaire des neufs de la milice. Le voilà tout à la guerre, en proie à une activité qui en devient presque maladive. Il lui appartient d'organiser les milices, d'en assurer le ravitaillement. Il rédige une ordonnance pour la cavalerie, une autre pour l'infanterie, dont le cardinal Soderini disait, en son enthousiasme, qu'elles étaient œuvres divines. Ainsi s'écoulait la vie de notre diplomate homme de guerre, quand éclata le drame, en octobre 1512, qui fit à ses yeux le malheur de sa vie et fit sa gloire, son immortalité. Les Médicis, qui en 1502 avaient été chassés par le parti républicain, rentrèrent dans Florence victorieusement. Un Médicis, Léon X, coiffait à Rome le trirègne pontifical. Le gouvernement républicain, dirigé avec énergie par le gonfalonier Piero Soderini, fut renversé. Machiavel, qui avait été son zélé collaborateur, fut atteint du même coup. L'événement était grave dans la vie de l'écrivain fonctionnaire. Une circonstance imprévue en accentua terriblement la gravité. Le 18 décembre 1512, un décret venait de priver Machiavel de tous ses offices, quand se révéla un complot formé par de jeunes Florentins, Boscoli et Caponi. Il s'agissait d'écraser la tyrannie renaissante des Médicis. L'un des deux conjurés portait sur lui une liste de personnalités qu'il estimait devoir adhérer à sa cause. Le nom de Machiavel s'y trouva inscrit. Le malheureux Machiavel fut arrêté, jeté en prison, soumis à la torture. « J'étais sur le point de perdre la vie, » écrivit-il. « Dieu et mon innocence m'ont sauvé. » Les portes de son cachot s'ouvrirent, mais avec un ordre d'exil. Machiavel possédait, à 15 kilomètres de Florence, un peu avant d'arriver au bourg de San Cassiano, une petite ferme, plutôt qu'une villa, sur le bord même de la route menant à Rome, d'où son nom la Strada. La maison est conservée. Il y resta d'octobre 1513 jusqu'à son retour à Florence en 1519, 6 années durant lesquelles il produisit, en une activité éblouissante, chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Son fameux traité politique, Le Prince, dont l'idéal sera pour lui le terrible, sanglant et merveilleusement intelligent César Borgia, puis son magnifique discours sur Tite-Live et sa célèbre comédie La Mandragore. Le Prince est, de tous les écrits de Machiavel, celui qui lui est le plus reproché. Présenté à César Borgia comme l'homme politique idéal, Machiavel répond « Si l'homme était bon, le prince pourrait être vertueux, mais l'homme est mauvais. Il est donc permis de recourir à la force. Il faut être à la fois lion et renard, agir sans scrupule, mais en sauvant les apparences. Aussi bien si l'on ne peut excuser les fourberies et les assassinats reprochés au fils d'Alexandre VI, on doit reconnaître que partout où s'exerça son gouvernement, il éveilla des sentiments de reconnaissance parmi les populations. Or, bien gouverner, dans l'intérêt de la patrie, était aux yeux de Machiavel le bien suprême. En un document célèbre, l'écrivain a tracé le tableau de sa vie à Saint-Cassien. Il se promène dans les bois, où il s'entretient avec les bûcherons. Il y chasse la grive à l'arquebuse et d'autres oiseaux au filet. Dans le calme de la forêt, au chant des oiseaux, il lit Dante et Pétrarque, ou les anciens, Tibulle, Ovide. Il va à l'auberge du pays s'entretenir avec son humble clientèle. Chez lui, il dîne des maigres aliments que lui procure son petit domaine, puis revient à l'auberge où il lit partie avec un boucher, un menuisier, deux chauffourniers. Avec eux, je m'en canaille. On joue au tric-trac, d'où naissent des querelles fleuries d'injures. Vautré dans cette vilainie, j'empêche mon cerveau de se moisir. Je développe la malignité de ma fortune, satisfait qu'elle me foule aux pieds avec le désir de voir si elle me traitera toujours de la sorte. Mais le soir, rentré chez lui, l'écrivain se dépouille des vêtements de paysan, couverts de boue et de saleté dont il est vêtu. Il prend ses beaux habits de cour et pénètre, dit-il, dans le sanctuaire des grands hommes de l'Antiquité, représentés par leurs écrits, pour passer la fin de la soirée avec eux. Du séjour de Machiavel à Saint-Cassien, Musset a parlé en ses vœux stériles. « Ô Machiavel, tes pas retentissent encore dans les sentiers déserts de San Cassiano. Là, sous des cieux ardents dont l'air sèche et dévore, tu cultivais en vain un sol maigre et sans eau. La main, lasse le soir d'avoir creusé la terre, frappait ton pâle front dans le calme des nuits. Là, tu fus sans espoir, sans proche, sans ami. La vile oisiveté, fille de la misère, à ton ombre, en tout lieu, se traînait lentement et buvait dans ton cœur les flots purs de ton sang. » Du moins, venons-nous de dire que cette oisiveté produisit plusieurs chefs-d'œuvre et des plus éminents. L'exil de Machiavel prit fin grâce au succès de la Mandragore. La comédie fut mise en scène à Florence par l'illustre peintre André del Sarte. Le pape Léon X, fin lettré, et quel que fût le ton léger de la pièce, la fit jouer au Vatican. Il intervint auprès de ses cousins, les Médicis de Florence, et non seulement Machiavel fut autorisé à rentrer dans la ville, mais une partie des fonctions dont il avait été dépouillé lui furent rendues. En 1526, Machiavel apparaît à Florence comme secrétaire des 5 procureurs de la muraille. Il s'agit des murs défensifs de la ville. Puis il prend part à la guerre de Pise, chargé de diriger la dévastation du pays autour de la cité que l'on veut faire céder par famine. La mort de Jean des Bandes Noires, tué en combattant à l'âge de 28 ans, priva Clément VII du seul capitaine qui fut capable en Italie de barrer la route aux armées de Charles Quint, que notre connétable de Bourbon entraînait au pillage de la ville éternelle. La défaite de Clément VII entraîna à Florence la chute de ses cousins les Médicis. Ils furent chassés. La République fut rétablie. Machiavel espérait qu'il serait lui aussi rétabli dans les fonctions qu'il avait jadis exercées sous le gouvernement républicain. Un concurrent lui fut préféré. C'est que Machiavel, en ses 50 ans, apparaissait déjà vieilli. Trop d'événements, trop d'occupations et de préoccupations, d'idées et de sentiments divers, s'étaient empilés dans sa vie et dans sa cervelle. Un malheureux médicament qu'il prit le 20 juin 1527 provoqua tout aussitôt des coliques violentes. Deux jours après, mourait le grand écrivain. Son corps fut mis au caveau familial des Machiavelli dans la belle église Santa Croce de Florence qui illumine les fresques de Giotto. Ainsi s'achève Nicolas Machiavel par Funk Brentano.